Alors, messieurs les commissaires, d'abord, bon retour au commissaire Curzi. Premier sujet, évidemment, ce sont les compressions budgétaires pour les services aux francophones. Et on sait qu'entre autres, il y a le premier ministre François Legault qui va rencontrer aujourd'hui Doug Ford pour parler de d'autres sujets. C'était prévu, mais notamment le dossier des francophones en Ontario.
M. Legault a besoin de ça comme d'un mal dedans. Hein? C'est-à-dire que lui, ça va faire, il va aller faire de la business, il va aller vendre de l'hydroélectricité aux Ontariens. Et là, en tant que dépositaire du fait français en Amérique du Nord, parce que c'est un peu ça le titre officieux du premier ministre du Québec, mais il est obligé de dire au gars à qui veut vendre de l'hydroélectricité, t'es un peu épouvantable, t'es un peu dégueulasse. Puis s'il le fait pas, ben il va se faire torpiller. Regarde, moi, sur le sort des Franco-Ontariens, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. J'ai fréquenté plusieurs Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, Acadiens, etc. Moi, je trouve que c'est du beau monde. Il y a quelque chose de beau dans la survie de ces gens-là, dans des conditions épouvantables. Faut jamais oublier une affaire. En Ontario, par exemple, il y a eu une loi xénophobe qui s'appelait le Règlement 17 au début du 20e siècle et qui interdisait, grosso modo, d'éduquer des enfants en français. Ce que tu faisais avec ça, c'est que tu assimilais de force des petits francophones. Et au fil des années, il y a eu un combat. Ce combat-là a porté. Les francophones ont pu retrouver un certain contrôle de leurs écoles, mais ça a quand même eu des effets dans le temps. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a un fond raciste face aux francophones au Canada. Je ne dis pas que c'est encore le cas, mais il y a ce fond-là et on voit des échos de ce fond-là dans la décision de M. Ford.
Ouais, comme on en voit beaucoup. Moi, c'est l'indignation généralisée. Puis moi, je me retiens de l'indignation parce que ça me rendrait grossier. Et je ne veux pas être grossier à la radio ni dans la vie en général, mais c'est vraiment insultant. Il faut se souvenir qu'il y a eu cette loi-là.
C'est en 1912.
Mais il faut revenir un petit peu en arrière. On n'a pas le choix, là. C'est une bonne occasion de le faire. Il faut se souvenir qu'il y a eu le rapport Durham en 1839. Ça a l'air loin, mais dans le fond, ce qu'on voit se passer actuellement, c'est une conséquence directe du moment où Durham a dit « Écoutez, on va créer le Haut et le Bas-Canada pour être sûr que le Haut-Canada, qui était l'Ontario, le Bas-Canada étant essentiellement Québec, pour être sûr que le Haut-Canada va imposer sa loi et qu'on va assimiler graduellement, en particulier en imposant la langue anglaise, tous les francophones. » C'était après la conquête, donc on était un peuple qui allait être assimilé. Ça a soulevé un tollé et c'était tout de suite après évidemment les patriotes. Cet esprit-là de l'assimilation du peuple francophone par la majorité anglophone, la majorité qui possédait le pouvoir, ce sont les relents de ça. Quand Doug Ford dit, mais là, les francophones, il y a des Chinois aussi, il y a d'autres, il nous met dans la même situation d'être une minorité au même titre que toutes les autres, une doctrine très largement défendue par tous ceux qui disent, oui, les francophones sont un peuple fondateur, mais c'est aussi, dans le fond, là, ce qu'ils pensent vraiment, c'est qu'on est une minorité comme les autres. Théoriquement, dans les chiffres, ils ont de plus en plus raison. Parce que c'est vrai que dans bien des parties du Canada, les francophones sont des minorités au niveau des chiffres. Mais leurs droits ne sont pas ceux des autres minorités. C'est un peuple qui, en principe, est là, on rejoint, à mon sens, la grande illusion que Pierre-Éliott Trudeau a mis en place, l'idée que le Canada soit un pays bilingue.
Et l'indignation, elle est francophone présentement. L'indignation, elle est dans les réseaux des associations de francophones hors Québec, des associations d'Acadiens, des politiciens aussi acadiens, des politiciens franco-canadiens, etc. Il est où le McLean's? Il est où le Globe and Mail? Sont où les médias canadiens anglais? Et je soulève ces médias. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de taper sur le Québec par rapport à la défense du français, par exemple. Et des fois, c'est justifié. Pastagate, là, rappelez-vous quand un inspecteur de l'Office québécois de la langue française s'était présenté dans un restaurant puis il disait que la portion italienne du menu, c'était illégal. On a fait rire de nous partout dans le monde et c'était mérité. Mais là, excuse-moi, ces mêmes médias-là, Globe and Mail qui faisait des éditoriaux là-dessus, il est où? Il est où, ces francophones? Il est nulle part. Missing in action, comme on dit.
Non, mais toi, là, tu parles des médias, mais moi, j'ai pas entendu, là, mis à part Mélanie Joly, le chef conservateur.
Voilà.
Mais les premiers ministres des autres provinces, pas un sifle.
Ils sont absents, puis en plus de ça, on est en train de politiser cette question-là. Et là, ça va devenir un débat politique entre les libéraux puis les conservateurs, en associant les conservateurs à Doug Ford, donc anti-franco. Les libéraux se dissocient de Doug Ford, évidemment. Ils sont libéraux, puis ils veulent gagner de l'électorat. Puis eux autres, ils vont être pro-Canada. Tout ça, c'est une vaste blague. Cette semaine, il va y avoir la remise des prix du mérite du français. Puis moi, je l'ai gagné, ce mérite du français-là, l'an passé. Et j'avais été mis en contact parce que c'est un prix, ce sont des prix qui sont remis à plusieurs communautés. Puis, honnêtement, là, j'ai été en contact avec ces gens-là des différentes minorités. Il y en a qui venaient du Manitoba, il y en a qui venaient de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. Ce sont des gens admirables d'intelligence du combat qu'ils sont en train de mener. Parce que le combat qu'ils mènent, c'est pas juste la survie de leur langue. C'est leur langue, leur culture, leurs droits, et c'est aussi une idée du Canada. Pour ceux qui défendent le Canada, c'est une idée noble. Puis moi, comme indépendantiste, j'ai toujours été... ça m'a toujours beaucoup questionné. Admettons que le Québec devienne un pays indépendant, comment on reste en lien avec les francophones hors Québec et quel est notre rapport avec eux? Parce qu'on ne peut pas dissocier ça. Puis je finis en disant juste que l'affaiblissement des partis qui incarnent cette idée d'indépendance, à mon sens, n'aide pas les communautés francophones hors Québec.
Tu sais, on parle de combat politique. Présentement, ce sont les libéraux fédéraux qui sont au créneau. Mais les conservateurs, excuse-moi, là, mais Andrew Scheer, le chef conservateur, là-dessus, il me fait penser à M. Fitzgibbons, notre ministre de l'économie, par rapport à Alain Bellemare de Bombardier.
Oui.
C'est-à-dire que sa critique est d'une main de velours enrobée d'un gant de velours et ça fait aussi mal qu'un massage de pied. Je veux dire, M. Scheer, il est allé dire, oh, je suis préoccupé. Je suis préoccupé, c'est le pablum de la politique. Quand tu n'as rien à dire là, sur un enjeu, quand tu ne veux pas te mouiller, tu dis que tu es préoccupé. C'est vrai au niveau local, c'est vrai au niveau international. Scheer pourrait dire à Ford, hey, excuse-moi, mais ceci n'a pas de bon sens. Pour replacer un petit peu, là, le secrétariat aux affaires francophones, c'est comme ça que ça s'appelle? Je pense le commissaire.
Commissaire
aux affaires francophones. C'est quelques employés. On coupe ça, le budget de quoi? Même pas 5 millions. Et les employés vont être fondus, dilués dans une autre structure. Bon, donc, tu fais pas ça pour sauver de l'argent. Tu fais ça parce que ça t'écœure d'avoir un chien de garde qui, quelques fois par année, fait des coups de semonce, dit que tu devrais donner des meilleurs services en français. C'est ça, la réalité. Puis, pour te montrer à quel point c'est épouvantable, moi, je ne suis pas de ceux... Je sais qu'il y a quelques souverainistes, quelques nationalistes au Québec qui s'offusquent du fait que les Anglos, ici, ont leur hôpital, par exemple. Moi, je suis pas contre ça. Je trouve que c'est un signe de santé démocratique quand tu regardes comment tu traites tes minorités. Puis notre minorité historique ici a ses commissions scolaires, a son hôpital. Le gouvernement du Québec aurait probablement pu se construire un CHUM et laisser des miettes aux Anglais, un CUSUM moins, mettons. Mais non, ils ont un CUSUM de calibre mondial. Moi, je suis fier de ça. Les universités, même affaire. Et où l'université francophone en Ontario? Ce sont des universités bilingues, Laurentienne et Ottawa, dont je suis un diplômé. Pense une seconde. Le gouvernement du Québec fait aux Anglos du Québec ce que le gouvernement ontarien a fait à ses francophones. Je veux dire, il y a des manifs partout au Canada.
La vraie question à poser, c'est est-ce qu'il va y avoir un changement de cette décision-là? Puis malheureusement, actuellement, là, étant donné le silence quasi religieux de tous ceux qui pourraient intervenir d'une façon féroce, c'est-à-dire les autres premiers ministres et tout ça, je crois pas que Ford va revenir sur sa décision.
Au retour de la pause, des conflits de travail qui s'éternisent, Société des alcools et Poste Canada, autoroute 440, Marc.